Je suis Lionel Thébault, pasteur de l'église protestante unie de Chartres-Beauce et Perche, et c'est moi qui anime aujourd'hui l'émission protestante sur Radio Grand Ciel. Je lis ce texte tiré de la Bible dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, les versets 1 à 10. Le jeune Samuel servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un être humain ou qu'il lui accorde une vision. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le sanctuaire du Seigneur, près du coffre de l'Alliance. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit « Oui, maître ». Puis il accourut auprès d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». « Je ne t'ai pas appelé, » dit Élie. « Retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela « Samuel ». L'enfant se leva et revint dire à Élie « Tu m'as appelé, me voici. »« Non, mon enfant, » répondit Élie. « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la troisième fois, le Seigneur appela « Samuel ». Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Et cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors « Va te recoucher, et si on t'appelle de nouveau, tu répondras « « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là, comme les autres fois. Il appela « Samuel, Samuel !» L'enfant répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Je me rappelle d'un livre policier qui parle d'un écrivain qui a un énorme succès avec son premier roman et qui, devant écrire son deuxième livre, est atteint de la maladie de la page blanche. Rien ne sort. Pourquoi ? Parce que cet écrivain se met la pression pour faire un livre qui soit meilleur que le précédent. La pression que l'on se met pour faire mieux, voire pour faire aussi bien que ce que l'on a fait avant, a souvent pour effet de nous couper les jambes. Car alors ce n'est pas notre cœur que nous écoutons, mais c'est le désir de réussir, le désir de maintenir une réputation, une performance, voire un statut. On se dit « je ne peux pas faire moins bien ». Le regard des autres est très important pour nous et parfois ce genre de choses qui caractérise la dynamique de l'orgueil vient nous pourrir de l'intérieur et tuer nos talents. Cette logique vient s'insinuer dans notre vie spirituelle. Il y a dans nos spiritualités quelque chose qui nous pousse à rechercher la performance. Au lieu de nous mettre au défi d'être un peu plus sages, nous nous mettons au défi d'être plus sages que les autres, ou meilleurs prédicateurs que les autres, ou de passer plus de temps à prier que les autres, ou de lire la Bible plus que les autres. Un tel a fait ça, je dois faire aussi bien, voire mieux. Mais quand on est malade, par exemple, ou quand on est proche du burn-out, ou quand on est dedans, quand on a déjà beaucoup donné, et quand d'autres, comme notre famille par exemple, ont besoin de nous. Alors là, il faut savoir ralentir. Le mot décroissance prend ici tout son sens. Ce moment où il faut ralentir nous insupporte, nous avons l'impression de régresser et notre estime en prend un coup. Mais nous avons besoin de ralentir à certaines périodes de notre vie. Quand notre rythme n'est pas en accord avec ce que nous sommes, il faut bien convenir que la maladie ou d'autres désagréments nous forcent à faire moins. De toute façon, vous n'êtes pas appelé à être dans la performance, vous êtes appelé à vivre. Et c'est ce que le texte du jour m'a inspiré. Enfin, après que je me sois retrouvé dans la sensation désagréable d'avoir attrapé la maladie de la page blanche. Petit Samuel n'aurait pas dû naître. Anne, sa maman, était stérile. Déjà là, il y a ce qui est ressenti comme un échec. Anne n'est pas capable d'enfanter alors que les sociétés sont fondées sur la croyance que le rôle de la femme est de donner naissance à des enfants. Comme s'il n'y avait que ça d'important et de significatif dans la vie. Anne avait attrapé la maladie de la page blanche. Elle ne pouvait pas faire ce que les autres femmes faisaient normalement. Elle ne pouvait pas faire ce qu'on exigeait d'elle. Alors, seul recours pour être acceptée dans la société des humains, elle compte sur Dieu. Elle prie. Et Dieu l'exauce, alors qu'il n'exauce pas toujours nos demandes. En réponse à cet exaucement, elle consacre son enfant, Samuel, pour servir Dieu dans le temple de Silo. Ça veut dire qu'elle le destine à la prêtrise. Voilà donc que le petit Samuel vit séparé de sa mère. Il voyait ses parents une fois par an lors du sacrifice annuel, nous dit le chapitre 2. Et il vit seul avec le prêtre Élie dans le sanctuaire de Silo. Dans sa relation avec son père et avec sa mère, il vit la maladie de la page blanche. Et à l'époque, on n'insistait pas comme on le fait aujourd'hui à tort en disant « un papa, une maman ». Là, il n'a plus ses parents pour l'éduquer, et ce, dès son sevrage. Dans ce temple, on avait déposé l'arche. Le texte nous apprend que Samuel dort dans le sanctuaire du Seigneur, près du coffre de l'Alliance. Samuel entend une voix pendant son sommeil et il est persuadé que c'est le vieux prêtre qui l'appelle. Le texte nous dit que le prêtre est aveugle. Là aussi, je vois la page blanche. Quand la Bible nous parle d'un aveugle, il s'agit de quelqu'un qui ne sait plus où il est, quelqu'un qui ne voit plus clair dans la situation. Comme Paul qui devient aveugle après avoir rencontré le Christ, pour lui montrer combien il avait été aveugle pendant qu'il persécutait l'Église. Ou comme cette phrase de Jésus, désignant les religieux de son temps, « Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ». Bref, le prêtre Élie est aveugle, il ne sait plus où il va, il vit la maladie de la page blanche pour sa vie personnelle. Et aveugle comme il a du mal à comprendre ce qui arrive au petit Samuel. C'est au troisième coup que Élie comprend qu'il se passe quelque chose. Il apprend à Samuel comment répondre à l'appel divin. « Va te recoucher, et si on t'appelle de nouveau, tu répondras « Parle, ton serviteur écoute ».
Mes nuits blanches ne sont pas blanches, à peine claires, semées d'étoiles, petits trous dans la toile étanche, triste strass sur le voile, et moi envoûtée de ténèbres, je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah, minuit est là, ah, je ne dors pas, et moins je dors et plus je pense, et plus je pense, et moins j'oublie. S'impasse l'espace immense qui s'étend au fond de mon lit. C'est inouï tout ce silence qu'il est cosmique cet ennui. Dois-je recourir à la science, anesthésier l'insomnie. Ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas. Et puis passé minuit, je danse au rythme des tachycardies. Et tout s'emballe et tout balance. Et tout m'étale et tout me fuit. La lune est un fruit un peu rance. La vie est une maladie. Ce qui rêve. De la chance et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance. Quant à moi, j'ai des insomnies.
Voilà, c'est tout simple. Parle, ton serviteur écoute. Et de cette simplicité, je tire deux enseignements, simples aussi, mais qui me semblent très importants. D'abord, l'Esprit de Dieu n'a pas besoin que vous vous surpassiez pour faire avancer le royaume. Il veut juste que vous fassiez votre travail. Le Saint-Esprit n'est pas dans la performance, il est dans les petites choses de la vie quotidienne. Notre société, qui rêve de toute puissance, nous pousse à nous affranchir de nos limites, voire à faire comme si nous étions illimités. Or, nos limites sont là, et elles sont nombreuses. Quand tout semble aller bien, on oublie que nous sommes des êtres limités. Nos rêves sont habités par des personnages imaginaires qui sont en bonne santé et nous voyons les limites comme des marques de faiblesse. Ça nous est insupportable. Le détournement aussi de versets bibliques, comme cette phrase de Paul par exemple, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Ce détournement est catastrophique parce qu'on oublie que Paul a aussi dit « C'est quand je suis faible » que je suis fort. Accepter notre faiblesse, c'est reconnaître que la réussite, donc la performance, n'est pas ce qui est essentiel pour la vie. Dans notre société, nous avons beaucoup de compassion pour les gens qui travaillent dur et à qui il arrive un malheur. Mais quelle compassion avons-nous pour les gens qui, pour une raison ou une autre, sont incapables de travailler dur. Ces gens qui sont vraiment sans ressources, parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils sont découragés ou pour toute autre raison. Rappelez-vous que Jésus est resté petit et qu'il ne nous montre pas un Dieu tout-puissant, mais un Dieu caché, discret et respectueux de nos propres limites. L'autre jour, lors d'une réunion œcuménique, j'ai découvert un chant catholique qui parlait de l'humilité de Dieu. Ça m'a touché et je me suis dit, si Dieu respecte nos propres limites, si Dieu respecte aussi ses propres limites, pourquoi nous ne respecterions-nous pas les nôtres? Deuxième point, méfions-nous des méthodes. Élie, le prêtre, pouvait très bien, comme c'est la mode aujourd'hui, jouer les gourous et initier Samuel à des techniques spirituelles qui lui permettraient de percer les secrets de la révélation divine ou comment forcer Dieu à parler en 12 étapes initiatiques. La question de la relation à Dieu et de la faculté d'entendre la voix de Dieu est devenue dans nos milieux un enjeu de performance. Nous avons en nous une petite voix qui ne cesse de nous dire que nous devons plus prier, que nous devons plus lire la Bible, que nous devons plus faire ceci ou cela. Et cette voix se fait accusatrice. Elle nous fait nous sentir mal parce qu'elle est le reflet de notre imagination. Nous avons une image, pour ne pas dire une idole, de ce que devrait faire un vrai chrétien, une vraie chrétienne. C'est un poids incroyablement lourd et incroyablement inutile, car ces accusations ne nous ont jamais aidés à changer de comportement de manière profonde. La culpabilité n'est pas un moteur, elle est un frein. La vérité se trouve dans votre relation personnelle avec Dieu. Et oui, il y a des gens qui prient 3 heures par jour, il y a des gens qui passent leur temps dans leur Bible, il y a des gens qui distribuent tous leurs biens aux pauvres, il y a des gens qui sont tous les dimanches au culte, et alors? Si tu te sens coupable de ne pas assez faire ceci ou cela, bats-toi contre ces pensées. Elles ne mènent à rien. Entraîne-toi plutôt à voir Dieu dans tout ce que tu vis au quotidien. Et si le désir vient de lire la Bible ou de venir au culte, alors donne-toi les moyens d'accomplir ce que ton cœur veut. Élie ne donne pas de méthode. Il ne dit pas à Samuel que pour entendre Dieu, il doit prier longtemps ou étudier les textes. Que lui dit-il? Il lui dit « Va te coucher ». Le degré zéro de la performance.
Children waiting for the day they feel good.
La vie, en règle générale, c'est aller de l'avant, améliorer un peu les choses, dans le respect des gens qui nous entourent. Mais il y a des saisons, des périodes, plus ou moins longues en fonction des personnes et des événements que nous vivons, qui met ce que nous considérons comme la vie normale entre parenthèses. La situation devient extraordinaire. Ces périodes nécessitent que l'on ralentisse et que l'on accepte de ne pas être performant. C'est dur dans une société qui valorise la concurrence. Quand on a une jambe cassée, on ne court plus le marathon. Quand on tombe, il faut se relever avant de reprendre notre route. Quand on est épuisé, il faut prendre du repos. La page blanche nous dit qu'il faut prendre soin de soi. Ce n'est jamais facile à vivre. Ça a un côté déprimant, mais c'est un besoin essentiel exprimé par notre corps et par notre esprit. On connaît tous des personnes qui, étant KO, ont une énergie incroyable. On a l'impression qu'en se dépassant, elles récupèrent des forces. Oui, ça existe, des gens comme ça. Mais ce n'est pas un modèle qu'il nous faudrait suivre. Ce n'est pas un exemple qui doit nous faire culpabiliser de ne pas être forgés du même métal. Dans notre récit, c'est justement quand Samuel va se coucher que Dieu l'appelle. Voilà qui devrait nous faire méditer. Au revoir, et j'espère vous voir dimanche prochain à 10h30 au culte qui aura lieu au temple du vin rue Saint-Thomas à Chartres.
His arms all around me, and his tongue in my eyes. Still, calm and quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, I will only love you. Though it's much too late to get away, turn on the light. Spider-Man, he's having you for dinner tonight. And I feel like I'm being eaten by a thousand million shivering flies. Holes. I know that in the morning I will wake up in the shivering cold. And the Spider-Man is always
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Don't be a fool. That's all you need to say. Don't be a fool. Don't give your nights to someone else. While giving days to those who really love you. Don't be a fool like me and give your life to someone else while faking love to those who really love you. Why couldn't I have realized the gravity of telling lies? Whose weight now shows upon your faceless smile? I broke your heart now and before, but I won't do it anymore. Trust in me and fall in love again. Listen to these charms, 'cause baby, I'm not fooling. Fall into these open arms of love. Listen to these charms, 'cause baby, I'm not fooling. And fall into these open arms of love. Listen to these charms, 'cause baby, I'm not fooling. Fall into these open arms of love.